Alors, on va parler de couple, car comme on a des températures de Saint-Valentin aujourd'hui, on va pouvoir véritablement voir ce qui unit à la ville ou pas à la ville. Professionnellement, les trois couples que nous avons aujourd'hui avec nous. Alors, je vais commencer par vous, Alexandre Dinge, pardon, et Magali Villeneuve. On va parler notamment d'illustration ensemble. Ils ont fait l'affiche des Imaginales cette année. Donc voilà. Qui est très, 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 très joli. Ouais, bravo.
Merci.
À côté de Sylvie Miller et Philippe Ward, alors simplement détailler juste leurs activités, je pense qu'on en aurait pour 1 heure et demie, mais. Bon, voilà. Non, 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 mais pour dire qu'ensemble, ils écrivent depuis longtemps. C'est un couple qui dure, c'est un couple fidèle. Du chant de Montségur jusqu'à Noir-Duo, en passant par les aventures de Jean-Philippe Lasserre, qui a eu le prix Imaginal 2013, un détective privé. Mais en plus, parfois, Philippe Ward est l'éditeur de Sylvie Miller quand elle fait des anthologies chez Rivière Blanche. Donc, on va leur demander aussi comment ça se passe quand d'un seul coup, c'est plus simplement le couple d'écrivains, mais le rapport éditeur-anthologiste. Tout du moins. Et puis à mes côtés, un vieux couple aussi, c'est Daniel Martin-Nigol, beaucoup de livres ensemble. Je parlerai du dernier qui s'appelle Sens interdit. Il y a aussi L'enfant miroir, enfin, il y a tout. 25 ensemble, vous avez fait. Et depuis combien de temps? 25 ans. C'est beau. Donc on va pouvoir discuter un petit peu. Peut-être un premier tour de table pour savoir comment ils se sont rencontrés professionnellement les uns les autres. Et surtout, à quel moment ils se sont dit, parce que ça se, c'est pas tout de se rencontrer, mais ils se disent, tiens, on pourrait peut-être travailler ensemble. Commençons par vous deux.
Alors nous, c'est un peu compliqué, puisque à la base, on est quand même fan d'animation, Walt Disney, DreamWorks. Quand j'étais jeune, j'étais tout seul dans mon petit coin de village avec ma passion, et un magazine était disponible à cette époque-là qui s'appelait Animeland et qui existe toujours, je crois. Et du coup, une partie du magazine était dédiée au relationnel avec d'autres passionnés. Du coup, j'ai vu quelques passionnés de Disney, et parmi ces personnes-là, il se trouvait Magali. Donc, on a commencé à échanger dessins, passions sur l'animation, et puis un jour, on s'est rencontrés en vrai, et puis ça a commencé comme ça.
En fait, on s'est connus avant de commencer notre carrière. Ce qui fait qu'on a commencé notre carrière ensemble. Voilà. C'est pas la carrière qui nous a rassemblés, on était déjà ensemble avant de devenir illustrateur.
On verra à quel moment vous êtes dit à quel moment vous êtes dit et si on travaillait ensemble?
On ne travaille pas vraiment, enfin on fait la même chose. Et on a fait le livre ensemble également. Mais c'est vrai qu'on travaille chez nous, donc on est tout le temps tous les deux. C'est de cette manière qu'on travaille ensemble véritablement.
Sylvie Philippe.
Mais comme moi j'ai une très mauvaise mémoire, je vais passer à Sylvie qui se souvient de tout.
Ça, c'est juste retour par rapport à un truc que j'ai dit dans une interview, c'est ça? Alors, effectivement, alors nous, ça remonte à assez longtemps, dans les premiers temps où moi je suis arrivée sur Internet. C'était il y a un paquet d'années. Alors à l'époque, il y avait AOL. Et alors, un truc qui faisait fureur à ce moment-là, c'était les salons de discussion. Et j'avais rencontré quelqu'un sur Internet qui est devenu une copine que je vois toujours depuis d'ailleurs. Et qui était passionnée de SF comme moi. Et qui me dit, oh là là, il y a un salon SF qui est tenu par un type, c'est un écrivain. Vas-y, vas-y. C'était tous les vendredis soirs. Donc il ouvrait son truc vers 21h ou 20h, je ne sais plus. Et puis ça fermait quand il allait se coucher, et on discutait de SF, les gens échangeaient, et lui proposait des tas de choses parce qu'il était hyper informé sur le genre. Et quand on a discuté, je lui dis, moi je connais pas du tout la SF française, moi j'ai lu que de l'anglo-saxon et en anglais en plus, et puis j'ai lu de l'hispanique en espagnol, mais ah bon, il y a des Français qui écrivent de la SF, donc il m'a proposé des listes de lecture, on a sympathisé, je donnais des impressions. Et puis, de fil en aiguille, lui, il disait tout le temps à tout le monde, « Ouais, faut écrire, faut écrire, faut écrire. » Je dis, « Bah, moi, j'ai bien gribouillé des trucs dans mon coin, mais je suis pas écrivain, je sais pas comment faire. »« Bah, si, 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 il faut que tu te lances. »« Mais je sais pas, j'ai pas de méthode, j'y arriverai jamais. »« J'ai bien une idée, mais toute seule, je la sens pas. » Et c'est là où Philippe me dit, « Bah, écoute, si tu veux, on essaie d'écrire cette nouvelle ensemble. » on voit ce que ça donne. Moi, je te donne un petit peu de mon expérience. Et puis, si ça marche pas, bah, ça marche pas, ça n'aura pas à coûter grand-chose. Et si ça marche, ça t'aura mis le pied à l'étrier. Et ça a donné Le Mur. Première nouvelle publiée ensemble, qui a tout de suite attiré, on l'a proposé à Ténèbres, qui a dit on la publie tout de suite. Et puis, bah, après, de fil en aiguille, on a trouvé le plaisir d'écrire ensemble. Et bah, on n'a pas arrêté, tout en ayant des moments où on écrit chacun séparé, où on fait des tas d'autres choses séparées, mais il y a toujours ce plaisir de se retrouver pour coécrire.
Philippe, même si tu as une mauvaise mémoire, on l'aura compris, simplement, quand Sylvie te dit j'ai gribouillé un truc, tu te dis spontanément tiens, on va voir ensemble, ou tu avais déjà repéré que potentiellement il y avait quelque chose?
Mais déjà, j'avais repéré, parce que déjà, pour moi, quelqu'un qui disait un VO, l'anglais, c'était. Ah, mais surtout l'espagnol. Là, c'était quelqu'un qui avait des connaissances énormes, et puis c'était quelqu'un qui savait écrire, je veux dire, franchement, comme vous voyez, donc là-dessus. Puis je veux dire, il y a aussi la chimie qui s'est passée pratiquement de suite, hein, parce qu'il faut aussi, il faut dire que, bon, elle habite la Courneuve, moi j'habitais l'Ariège, donc il y a 800 km d'écart, donc on ne se connaissait pas, parce qu'on ne se voyait pas. Il faut dire, Internet, ça a été vraiment la révolution, et à partir de ce moment-là, où on a commencé à travailler Le Mur, là-dessus, ça fonctionnait. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ça va être 14 ans après, je prends énormément de plaisir à écrire avec Timmy, et j'ai maintenant de moins en moins à écrire seul. C'est amusant de le voir, mais quand on me demande d'écrire seul quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, et j'ai toujours l'impression d'avoir Timmy derrière moi. Mais c'est vrai qu'écrire à deux, pour moi, c'est un peu bonheur. Voilà, là, oui, j'ai toujours peur de recevoir un coup sur la tête.
Même chose pour Daniel et pour Alain. Comment ça a commencé tous les deux?
Nous, on était tous les deux des fans de SF, et finalement, on grenouillait dans le milieu, dans les conventions de science-fiction ensemble. On s'était vu de loin, de près, enfin, bon, etc. Mais tout est venu du fait qu'Alain a pris une bonne averse sur la tête un jour et qu'il a dit vivement cet été qu'on soit à Menton. Et je me suis retourné, j'ai dit tu vas à Menton l'été, toi? Alors il m'a dit oui, mes parents ont un appartement là-bas, mais tu sais que je vais à Menton aussi, moi. Mes parents ont un appartement là-bas aussi. Et donc nous étions avec nos conjoints respectifs, nos enfants, à la même période en vacances à Menton. On a commencé à discuter et Alain m'a dit, tu sais, je viens de m'acheter un truc génial, c'est un ordinateur. Et moi j'étais toujours avec ma machine à écrire quasiment pas encore électriquée, hein. Et donc on est allé avec mon mari et mes enfants passer un petit week-end chez les Grousset. Et là, Alain a allumé l'ordinateur, le petit machin, là, son petit écran, c'était un appel de C, oui. Et donc... Et donc, il me parlait de... ça peut justifier, on peut faire du couper-coller, etc. J'ai dit, mais vas-y, il faut mettre un bout de tête, parce que je vois comment ça fonctionne. Alors, il me dit, oh oui, non, mais avec quoi tu veux qu'on commence? Alors, je me suis assise devant la bécane, et moi, j'ai tapé avec mes petits doigts très tôt. J'ai appris la dactylographie parce que j'avais vraiment envie d'écrire avec une certaine vitesse, en me détachant de cette contingence matérielle, obligée de réfléchir au clavier. Et donc, on a regardé. Il avait dit à table... une phrase qui me trotte dans la tête en ce moment, c'est « Le soleil se couchait bien tard ce soir-là ». Alors j'ai dit, on va commencer comme ça. Donc j'ai tapé « Le soleil se couchait bien tard ce soir-là ». Et puis j'ai écrit, moi j'écris très vite, c'est ce qui l'énerve. Il écrit très lentement, c'est ce qui m'énerve. C'est pour ça qu'on n'est jamais au même endroit, mais cette nouvelle-là, on l'a commencé ensemble pour voir comment fonctionnait la machine. Je suis parti, on est rentré à la maison avec ma petite famille, et dans la semaine il m'a renvoyé une suite. Il avait écrit un petit bout de suite en dessous de ce que j'avais écrit, et je me suis piqué au jeu, je lui ai retourné. Voilà, on a commencé à la fois à écrire et à être vraiment... Ah oui, une fois que la nouvelle a été terminée.
La nouvelle a été terminée, sans lui dire, je l'ai envoyé à la revue fiction.
Il fait plein de choses dans les deux.
Sinon, le port. Et donc, du coup, cette nouvelle a été faite. Donc, surprise. C'est comme ça que ça commence. Comment est-ce qu'on travaille à deux?
Nous, jamais ensemble.
Jamais ensemble.
Non, elle m'énerve, je l'appelle Piscopie. Là, elle est là, c'est comme un robinet qui s'ouvre, tape au kilomètre. Non, moi, je suis trois chapitres derrière. Donc, on a essayé une fois, j'ai cru qu'on allait mourir, vraiment. Donc, c'est pas possible. Donc, on n'a pas du tout la même temporalité d'écriture. Voilà.
Et alors, comment ça se passe
c'est dans un qu'il y a une partie vraiment où on est ensemble. Ben, ce sont les deux structurants, je pense que c'est. Je ne sais pas, ça discuter comment vous fonctionnez, mais moi, j'ai besoin. Enfin, nous avons besoin de tout savoir avant de commencer. Donc une fois qu'on a fait ça, ce travail-là, là, c'est fait en commun, par tout, après, ça nous est arrivé, moi par exemple, je vais faire le chapitre 1, le 3, le 7, le 8 et le 9, parce qu'il y a de la bouffe et de la bagarre, et puis tu fais les autres, parce qu'il y a des sentiments, donc et puis ils sont plus forts, donc voilà. Donc ça ne nous gêne plus du tout, et on écrit en même temps, c'est-à-dire pendant qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'autre ait fini d'écrire.
Donc ça veut dire qu'ensemble vous structurez l'histoire. Après, chacun écrit ses chapitres.
On fait vraiment des synopsis très détaillés, très serrés.
Ouais.
Et là, c'est uniquement la communication verbale. Enfin, c'est quand on se voit ou quand on discute par téléphone. On a besoin de ça. On a besoin de cette phase de communication orale pour rebondir l'un par rapport aux idées de l'autre. Si c'était tout par écrit, je pense que ça passerait moins bien. C'est vraiment, on part une communication verbale d'abord, ensuite on fait le synopsis, et puis notre premier roman ensemble qui s'appelle Les Manches-Forêts et qui est sorti aux éditions Nathan, j'ai écrit les 5 premiers chapitres pendant qu'il écrivait les 5 derniers. C'est-à-dire qu'on était en même temps, on avançait en même temps, et on s'envoyait les choses et on recadrait, mais finalement très peu, parce qu'on savait exactement où on allait, au fur et à mesure que l'autre avançait.
En termes de style, vous revoyez tout une fois que c'est écrit ensemble pour harmoniser. Comment ça se passe?
Ça, c'est intéressant à voir. On verra aussi comment travaille Philippe. Mais nous, on s'est rendu compte qu'on se décalait un peu de notre style, si tant est qu'on puisse vraiment parler de style, mais on se décalait un peu de notre style personnel pour aller vers l'autre. Et donc, on a fini par trouver une voie intermédiaire, c'est-à-dire que quand on écrit ensemble, on n'écrit pas tout à fait comme quand on écrit chacun de notre côté. Oui, voilà, ce qui est, c'est toujours moi qui fais le coup de brosse final. Moi, j'aime bien. Il y a une chose qui est très importante, peut-être, dans notre collaboration, c'est qu'Alain me laisse parfaitement m'approprier ses mots et ses phrases. Si j'ai envie de tripatouiller dans la structure d'une de ses phrases, de changer du vocabulaire, etc., ça ne gêne pas du tout. Donc moi, j'ai besoin de me réapproprier à un moment l'ensemble du texte. Je corrige pas grand-chose, en fait. Mais quand je peaufine l'ensemble, je dis, bon, ça y est, c'est fini. Alors lui, il dit, c'est bien, t'as bien bossé. Voilà. Et il est content et c'est fini. Oui, mais bon.
C'est lui qui. Comment vous travaillez ensemble?
Et bien, curieusement, on a un petit peu la même façon de faire, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que quand on écrit à deux, surtout sur un roman, bon, il y a deux solutions. Soit on écrit ensemble, on est devant le clavier, ça doit mettre un temps infini, et voilà. Soit, en plus, on habite loin l'un de l'autre. Soit on choisit effectivement de caler tout le synopsis, toute l'histoire de façon extrêmement détaillée, et là on est obligé effectivement de, pour que la créativité s'exerce, d'être en brainstorming, d'être face à face, et c'est là où les salons littéraires sont hyper pratiques, parce que Philippe qui monte toujours avec le bouquin de Rivière Blanche la plupart du temps vient en voiture, donc sur l'autoroute, en général il conduit. On fait nos brainstorming et moi j'ai le bloc et je prends des notes sur voilà. C'est comme ça que la fin, en principe la fin de la serre, oui, et après on se rend. C'est comme ça que à un moment donné, là on était à l'aller, on parlait de la serre, et à un moment donné je vois qu'on allait vers Épernay. Alors on était passé par la A5 quand même. Hein. Donc la A5 c'est par en bas, Épernay c'est la A4. Je fais attends, Épernay. C'est à Épinal qu'on va y avoir un problème. On s'était gouré quelque part, donc c'est pas grave, on a refait demi-tour, enfin bon, bref. Et donc c'est comme ça qu'on avance vraiment sur le synopsis extrêmement détaillé. Ensuite, on fait le découpage en chapitres. Et puis après, c'est exactement pareil, la bouffe et les bastons, c'est monsieur. Et ah oui, par contre, les voitures, les avions, la mécanique, c'est moi. Alors que tout le monde croit Ça, c'est très très drôle. C'est bien. Ah ouais, les voitures, c'est Philippe. Non, non, pas du tout. C'est moi qui fais de la mécanique auto. Donc, en fonction du contenu, en fait, voilà, et chacun écrit dans son coin, envoie à l'autre. Et par contre, nous, on a toute une série de ping-pong parce que quelquefois, il y a des choses qui se rajoutent par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Et là, on relise l'histoire ensemble. Et puis après, on fait une deuxième passe sur le style. Et effectivement, c'est moi qui repasse en dernier à la fin pour vérifier la cohérence, pour bien. Et pareil que vous, curieusement, on a chacun notre style. Et quand on est tous les deux, c'est pas le même. Il est un petit peu différent.
On a connu un couple disparu, là. Qui écrivaient ensemble en couple. Alors eux, c'est encore pire. Eux, ils faisaient des idées, ils en discutaient. Chacun faisait le livre. Et après, ils comparaient les deux livres et ils en faisaient un troisième en gardant le meilleur à la même scène. Voilà.
Ils s'étaient mariés. C'est vraiment un couple. Ce qui paraît étonnant, c'est que justement, ils vivaient ensemble. Ils auraient pu vraiment communiquer encore bien plus. Mais c'est de tous les couples d'écrivains qu'on a connus, c'est ceux qui travaillaient le plus en parallèle.
Je crois qu'il y a, pour moi, il y a deux choses importantes. Enfin, mais qu'il y a deux. C'est la première, c'est que il faut accepter que l'autre vous dise c'est mal écrit. Et puis, encore plus important, il faut arriver à dire à l'autre c'est mal écrit. Et autant je peux accepter, Camille, autant c'est dit. Mais parfois, c'est difficile d'être assez vite. Là, ça va pas. Donc, à partir du moment où maintenant, au bout de 10 ans, on peut tout se dire. Donc, voilà, on a l'habitude.
Mais non, ça c'est très très drôle dans la serre. De temps en temps, quand il y en a qui a une trouvaille, parce que dans la serre il y a beaucoup d'humour. Alors il y en a qu'on a trouvé ensemble au départ, mais des fois il y a des petites choses qu'on rajoute et puis on se dit, tiens, comment il va réagir. Alors par exemple, dans le Lacerre 1, à un moment donné, on a Seth qui descend dans la boîte de nuit, l'Argénios, et puis d'un coup, il y a des Tahitiennes, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai rajouté ça, ça a été une idée qui m'est venue sur le moment. Je reçois un mail affolé de Philippe qui venait dire ça. Des Tahitiennes, point d'exclamation. Mais où t'as cherché ça? Et il a rebrodé dessus après, et donc c'était très drôle. Sinon, pour en revenir effectivement à être capable d'être d'accord sur l'intrigue ou de mettre son égo dans sa poche ou autre, j'ai un grand souvenir de la fin du Chant de Montségur, où là, mais vraiment, on s'est bagarré parce que... Moi, c'était mon premier. Puis moi, j'aime bien mes héros, je m'y attache. Alors lui, il dézingue à tout va, lui, il fait mourir tout le monde tout le temps. Donc, évidemment, il voulait me zigouiller le héros, moi, je ne voulais pas. Mais on a vraiment argumenté, on s'est bagarré, et il a fini par me persuader qu'effectivement, au point de vue littéraire, c'était beaucoup plus intéressant, ça donnait une fin beaucoup plus forte. Mais alors, du coup, il a fallu rédiger ça et retravailler ça, la larme à l'œil, mais il avait raison. Mais c'était pas facile, il a dû bagarrer. Alors maintenant, ça va mieux. Mais enfin, de temps en temps, on a encore. On dit, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu veux.
Alors, voilà, justement, Alexandre et Magali, comment vous travaillez ensemble et comment vous avez travaillé sur la dernière terre?
Alors, pour le texte, je vais laisser Magali parler, mais en ce qui concerne l'illustration, c'est plutôt assez simple, en fait. On a un style plutôt approchant, on est plutôt dans le réalisme. Donc, du coup, bon, déjà, ça te gagne. Ensuite, on a pris finalement les forces de chacun. Moi, je suis plus dans la composition et la colorisation, les décors, et Magali plus ses personnages et les spécificités des personnages. Du coup, à ce niveau-là, on se faisait tous les deux confiance sur ce point-là. Donc, je me suis lancé tout d'abord, ce qui est important, en tout cas pour les affiches imaginales, c'est le décor. Donc, j'ai d'abord esquissé un croquis du décor. Magali, ensuite, a travaillé sur le personnage, on l'a intégré. On discute un peu par rapport à la cohérence du placement des éléments. Et puis voilà, je me lance à la colorisation, on choisit quelle teinte, la colorimétrie qu'il faut choisir pour commencer l'illustration. Et puis Magali vient par la suite, à la fin de mon dessin, vu que les couleurs sont déjà placées, elle reprend les teintes que j'ai placées pour le décor et les intègre au personnage.
Est-ce qu'il y a un gros brief, beaucoup de discussions avant sur l'affiche, enfin sur le dessin d'illustration finale que vous souhaitez?
Je n'ai pas le souvenir, c'était très long. Ça vient plutôt facilement après, c'est peut-être aussi le fait qu'on travaille dans le milieu de l'illustration, ça vient, on est habitué à avoir des idées très vite et rapides, mais on sait la sensibilité de chacun, et on sait ce que la personne avec laquelle on travaille veut voir aussi, donc du coup on n'a pas trop discuté, on a plus discuté dans l'aspect technique, et comme on dit, plutôt dans l'émotivité dans nos illustrations, ça roule plutôt facilement, quoi.
Trois trois projets en fait, à notre bien sûr. Hein.
Oui, on travaille sur trois grosses licences. Ah oui, trois brouillons, oui, exact. Bah, ça, c'est plutôt les retours que Bernardis nous a donnés suite aux premières ébauches, où bah, il voulait une affiche plutôt familiale, avec de la gaieté, de la joie. Donc, du coup, les premiers esquisses, c'était plutôt, à son sens, un peu trop oppressant. Le premier croquis, c'était on avait intégré le château d'Épinal dans une montagne. Du coup, l'illustration était plutôt. Comment dire, plutôt. Un peu claustrophobe, oui, voilà, c'est ça. Avec ces pierres qui volaient et tout ça, c'était un peu trop dur pour le public visé. Donc on a réessayé une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était parce que ben, on avait fait des personnages avec des armures. Le décor allait cette fois, mais c'était des personnages qui étaient un peu trop durs, armures, des armes. Et ils voulaient un truc un peu plus féerique. Donc là, c'est là qu'on a pensé à la magicienne. La magicienne, quoi.
Et en ce qui concerne la dernière terre, donc la partie littéraire de notre travail, on va dire, l'idée de base de la saga, c'est Alexandre qui l'a eue. Et un jour, il m'en a parlé, il m'a un peu exposé son idée. Et comme il savait que quand j'étais adolescente, j'aimais déjà écrire, donc j'avais écrit un petit truc, mais rien qui n'ait jamais donné quoi que ce soit. Hein, c'était vraiment dans mes tiroirs et ça allait rester d'ailleurs, et je pense que c'est tant mieux pour l'univers. Et ça m'a beaucoup plu, ce dont il m'a parlé, et il m'a demandé, donc, comme je sais que tu aimes écrire, est-ce que ça te dirait d'essayer d'en faire quelque chose? Et c'est parti comme ça. Ensuite, de manière purement technique, c'est moi qui écris, il n'écrit jamais, en fait. Il ne fait que. Il intervient au moment de la création, du synopsis, il m'expose les idées, où est-ce qu'on va aller, donc, à partir de. Depuis le premier tome, ensuite, une fois l'idée de base posée, chacun amène quelque chose. Voilà, je ne suis pas juste l'exécutante, on participe d'égale façon à l'élaboration du synopsis. Une fois que ça c'est fait, il me laisse tranquille, parce qu'il vaut mieux me laisser tranquille quand j'écris, c'est très désagréable. Donc,
elle peut mordre.
Oui, c'est ça. Donc généralement, il me laisse faire dans mon coin, on procède chapitre par chapitre, j'écris un chapitre. Une fois que j'ai terminé, le soir, on va se coucher et je le lis à haute voix. Ça nous aide aussi à voir à quoi ça ressemble un petit peu. Et lui, alors quand il s'endort généralement, bon, je remballe et je corrige, hein, parce que c'est qu'il y a vraiment eu un problème. Et donc, lui, il découvre le chapitre comme ça. Et une fois que c'est terminé, il me dit ça, oui, bof, ça, non, on discute. Et tout le livre avance comme ça, chapitre par chapitre. Voilà. Mais merci beaucoup pour la ponctuation sonore, hein, j'aime beaucoup. Très à propos, c'est merveilleux, merci.
Non, on parlera de violence physique hein, tout à l'heure, si elle peut mordre.
Oui, je vais faire le modérateur, mais c'est intéressant. Vous êtes vraiment donc un couple dans la vie des jours, au contraire de deux autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de
passer. Vous pouvez aller boire un café, hein, il va terminer.
Oui, va jouer. Nous, on ne s'est jamais engueulé parce que justement, s'il y a un point d'accroche, le pendant en fout le truc à la poubelle, on a assez d'imagination. Et moi, ce qui m'intéresse, tout bêtement, c'est de dire bon, on est dans la couple, des fois on s'engueule et tout. Si vous engueulez pour quelque chose dans la vie quotidienne, le lendemain, il faut travailler ensemble. Oui, bah, débrouille-toi, t'as également. Enfin, c'est ce rapport-là, cette dichotomie. Hein, entre le professionnel et la vie quotidienne.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui est assez particulier. On est ensemble depuis 12 ans, et depuis 12 ans, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, la phase, genre on se tape dessus, elle est passée depuis longtemps par la nécessité, parce que sinon, on ne tiendrait juste pas le coup. Voilà, c'est ça. Alors, on a appris à régler les conflits assez vite et assez doucement pour éviter que ça empiète sur les moments où on sait qu'on va devoir collaborer. Parce que vous devez le savoir, quand on doit produire quelque chose de la création, on est vite parasité par l'émotionnel. Si on n'est pas bien en phase avec son partenaire, ça peut vite ralentir beaucoup le processus. On ne peut pas vraiment se permettre de ralentir les processus. Donc on fait vraiment voilà, la part des choses. Bon là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on fait une pause, on s'explique, on fait baisser la pression et on y retourne parce qu'on n'a pas de ça à faire.
Comment vous bossez? C'est tout le temps? Ou il y a, par exemple, sur le livre ou sur l'illustration, où il y a des temps qui sont dédiés à ça dans la journée, puis vous passez à autre chose après?
On a une vie très chronophage, dans le sens où notre métier premier, de toute façon, c'est l'illustration. Donc par nécessité, on travaille en France et aux États-Unis, donc du coup, on est obligé d'avoir une règle précise au niveau du timing. On dédie généralement le matin à la France et à partir de 17h jusqu'à 12h du matin aux États-Unis. Sachant qu'aux États-Unis, on est en lien direct parce que quand il y a des retouches, des choses comme ça, c'est sur l'instant. On peut pas dire par exemple, j'ai une retouche pour un dessin, je pourrais le faire demain. Non, c'est sur l'instant. Ils sont assez carrés sur ce point-là. Donc du coup, nous, au niveau de l'écriture, c'est pas tous les jours déjà. C'est quand on a le temps, c'est suivant les projets qu'on nous donne, ça peut prendre un ou deux mois sans écrire. Donc du coup, c'est voilà, dès qu'on a un peu de temps libre, finalement, on se met à écrire. Enfin, Magali se met à écrire, on discute. Mais c'est vrai qu'on discute essentiellement au lit, en fait. Voilà.
Parce que sinon, c'est
et dans les moments, voilà, comme je disais, où on ne peut pas écrire, où enfin, techniquement il n'y a pas le temps, on continue quand même de discuter de l'histoire et de prendre des notes pour optimiser tout ça au maximum.
On a eu une expérience assez sympa quand on construisait les Manches Forêts, à savoir que c'était une commande. Les éditions Nathan nous avaient demandé, on avait fait des bouquins chacun de notre côté, on avait écrit des nouvelles ensemble, donc, mais jamais de romans. Et donc c'était pour une collection pour des enfants autour de 9-10 ans, en fait. Donc on a commencé à réfléchir un petit peu au projet, et on s'était arrêté sur l'idée de faire une planète forestière qui serait menacée par le méchant terrien qui voudrait venir dévaster les forêts de cette belle planète qu'au début on avait baptisé Forestière, qui est devenue Amazonien après. Et donc Alain me dit, mais ce que je voudrais, c'est... Ah, tout ça par téléphone. Il me dit, je voudrais une forêt très particulière avec des arbres qui ne seraient pas des arbres comme sur Terre. Par exemple, on coupe un arbre, une heure après, il a repoussé à la même hauteur. Alors donc moi, au bout du fil, un instant de silence, et je dis, ça va pas être facile de faire des routes. Alors, donc il me dit, ah merde, j'avais pas pensé à ça. Bon, et il raccroche, parce qu'alors, il faut reconnaître que le fonctionnement qu'Alain et moi, nous avons au téléphone est très particulier, parce qu'à l'époque où le téléphone était cher, il travaillait à France Télécom, il ne le payait pas, et donc c'était toujours lui qui m'appelait, et il m'appelait quelquefois, 3 ou 4 fois par jour, et c'était vraiment, on reprenait la conversation comme ça. Donc là, on raccroche, il raccroche, je raccroche, il me rappelle une heure après, il me dit, bon, alors, j'ai réfléchi, il va y avoir des chenilles qui vont manger les arbres. Alors, je dis, des chenilles? Alors, il me dit, oui, des grosses chenilles qui vont manger la forêt. Bon, alors, grosses chenilles, j'écarte un peu mes bras en disant, je dis, mais enfin, comment veux-tu qu'une grosse chenille mange les arbres? Alors, il me dit, non, mais c'est des grosses chenilles. Ben, oui, j'ai entendu. Il me dit, non, mais t'as pas compris. Il me dit, c'est des chenilles grandes comme des TGV. Ah oui, ça change la donne, là, quand même. Alors donc, quand vous avez un copain qui vous dit on va écrire une histoire avec des arbres qui poussent en une heure et qui sont bouffés par des chenilles grandes comme des TGV, vous vous dites, c'est l'heure de sa piqûre. Et c'est là, en fait, tout le jeu est là. C'est quand... J'ai dit, oui, c'est vrai que ça va faire des papillons grands comme des avions. Et là, il a dit, t'es sûr? Je dis, je sais pas grand-chose en science, mais enfin, oui, je suis à peu près sûr que ça va faire des papillons. Et donc, il m'a dit, on utilisera ça. On utilisera et les gros cocons et les grands papillons. Et dans le roman, effectivement, c'est utilisé. Mais c'est ça, c'est ne pas repousser les idées de l'autre. Et des idées qui nous semblent à nous, dans nos propres histoires, complètement farfelues, on s'autocensure sans doute plus que lorsque c'est quelqu'un qui est en face et qui nous dit... Alors des fois, comme on dit, des fois il dit non, ça marche pas, et moi je dis non, ça marche pas. Mais d'autres fois, des choses un peu plus osées, risquées, etc. L'autre nous confortant dans l'idée que c'est pas si mal que ça, on ose se lancer, ça arrive peut-être à plus d'originalité.
Oui, ça démarre un peu mal, mais c'est terminé à 200 000 exemplaires quand même, le truc. Comme quoi, avec des chenilles. Ça
passe partout.
Dans les forêts. Une petite question, alors, qui n'a rien à voir, vous avez chacun des relations privilégiées l'un avec l'autre. Comment ça se gère vis-à-vis des conjoints, justement?
Eh oui,
on les fait rencontrer. Oui, c'est vrai, parce que bon, très souvent, on nous a confondus, on nous a pris enfin, dans le milieu pour un couple installé, quoi. On a un souvenir d'un auteur québécois. On a mangé avec mon épouse et puis Daniel, Et au bout d'un moment, à la conversation, je me disais, il y a mon époux, il y a ma femme et tout, et le gars ne comprenait pas trop, il croyait que j'avais deux femmes, enfin, ça, il se noyait complètement. Donc, effectivement, mais je crois que, bon, donc, il faut cette acceptation-là, parce que c'est une intrusion d'un autre homme ou d'une autre femme dans la famille, vraiment, parce que c'est une minimum une fois par jour au téléphone, et minimum une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc ça, c'est une intrusion. Mais dans l'autre sens, je pense que les conjoints sont contents aussi, parce que comme on est complètement un peu barjot là-dessus, sur la SF et tout, le trop-plein, il passe chez l'autre. Et là, c'est bon, quoi. Hein, parce que si l'autre, en face, il n'aime pas la science-fiction, ça se termine mal.
Quand même des conjoints qui aiment
voilà,
la science-fiction.
La science-fiction.
Voilà. C'est vrai que je me souviens que l'épouse d'Alain, un jour, m'a dit « Ah, oh, mais depuis qu'il travaille avec toi, il me fait quand même... il monte moins la pression pour la science-fiction. » Et c'est vrai que mon mari, de temps en temps, quand je lui parle d'un projet pour un roman à moi, il me dit « T'en as pas parlé avec Alain encore ?» Mais ça, c'est un roman à moi. » Il me dit « Oui, oui. » Alors, il ne m'en parle pas trop, par exemple, avec Alain, parce qu'il me dit « Tu sais bien, moi, quand tu me parles trop de tes livres, j'ai plus envie de les lire. » Alors, comme il a quand même envie de lire mes livres, il se dit « Il faut qu'il en parle avec Alain. »
Oui. Seulement, c'est un peu plus de là il ne faut pas s'empêcher de partager sur le livre que chacun écrit personnel. Et ça pose. Je sais pas, par exemple, elle a écrit Les Oubliés de Vulcan, qui est quand même son best-seller et tout. Moi, je lui ai donné l'idée des containers qui tombaient du ciel sur la tête des gens. Voilà, parce que c'est une idée. Il n'y a aucune. Une machine à idées, ça marche. Alors, après, hein.
Leur avis compte beaucoup pour vous. Une fois le livre fini, je suppose qu'ils le lisent.
L'avis du conjoint ?
Oui.
Oui, à l'avis du conjoint. Oui, il m'a cassé ma bande dessinée. Enfin, il y en a un qui est sorti au mois de janvier. Là, il me l'a vraiment. Quand il a lu le manuscrit, il m'a dit, il m'appelle, il me dit, j'en suis à la page 110, c'est vachement bien. Bon, ça va. Il me rappelle le lendemain, il me dit, il n'y a que jusqu'à la page 110 que c'est bien. ça, il prend un coup sur les ouïes, là, il dit, après, j'ai pas vraiment tout compris, alors donc on en a reparlé, j'ai restructuré le roman, effectivement, la deuxième moitié est nettement meilleure, suite au conseil que m'a donné. S'il a si c'est le regard aussi, à la fois professionnel et complice, et il sait qu'il peut se permettre de me dire, comment dire, son but, c'est que je fasse un bon livre. Moi, quand il fait un livre, on est content que notre partenaire fasse un bon bouquin, donc on aide. Je sais pas.
Et moi, comme je dis, j'ai fait avec Sylvie, j'ai écrit que deux romans, puis c'était deux romans spécifiques, c'est du polar régional, donc elle ne sait pas du tout son truc. Mais comme je disais tout à l'heure, j'avais Sylvie derrière moi. Je ne l'ai pas fait lire tout ça pour voir, parce que ça ne l'intéressait pas, c'est vrai que c'était notre de façon, mais elle était vraiment derrière moi. Par contre, quand on écrit des fois des nouvelles seules, oui, là, la vie de l'autre, on en regarde. Mais je te dis, moi, j'ai toujours cette impression qu'elle est là, qu'elle me regarde, qu'elle va être à côté de moi. Et ça m'encourage à être seul, même si, comme je disais tout à l'heure, écrire seul, maintenant, c'est moins amusant pour moi. Je prends moins de plaisir. Et tous les autres, j'avais écrit avant elle, donc j'en suis autre chose. Et c'était avant. Donc ça compte pas, non ? Voilà, exactement.
Oui, ben sinon, pour en revenir au conjoint, ben moi j'ai trouvé la solution idéale. Moi je me suis débarrassée du conjoint avant de commencer à écrire, comme ça. Je suis tranquille. Et puis bon, ben mes enfants étaient un peu jeunes, puis ben, quand je leur parlais de ces trucs-là, ça les intéressait pas. Donc maman, c'était maman, donc c'était pas. Voilà, maman, ça reste maman. Bon, elle écrit, oui, bah oui, c'est bien, mais. Voilà, donc finalement c'est un peu mon complice justement sur tout ce qui est projet d'écriture. C'est vrai que je lui demande souvent conseil, c'est bien d'avoir son avis, même si quand j'écris des choses à moi toute seule, je me débrouille toute seule. Mais c'est vrai que c'est parce que l'autre nous connaît, il connaît notre style, et puis ça reste quelqu'un qui est aussi écrivain. Et puis Philippe en plus, lui, de par ses activités éditoriales, qui fait de la direction de collection, qui. Je suis amenée à collaborer avec lui, bah, évidemment, à travers les anthologies que je peux faire pour Rivière Blanche, les traductions qu'il y a eu dans ces anthos. Finalement, ça reste quelqu'un de référence quand même par rapport à l'écriture, à qui je vais pouvoir demander des conseils, dont je respecte profondément les avis.
Alexandre et Magali, l'avis de l'autre, l'un sur le travail de l'autre, c'est important aussi.
S'il veut manger, oui. S'il veut avoir une place dans le lit aussi.
Oui.
Oui, oui, c'est vraiment important. Là, on va se placer sur le plan d'illustration, qui sont nos deux activités séparées. Enfin, c'est votre activité séparée, en fait. Moi, je sais que non seulement j'en ai besoin, mais je le redoute quand même aussi pas mal. C'est-à-dire qu'il est extrêmement franc et très exigeant, mais il a raison. C'est-à-dire que c'est aussi grâce à lui que j'ai beaucoup progressé. Et surtout, c'est important pour moi parce qu'il a des facultés en illustration que je n'ai pas. Des facilités avec certaines choses. Je pense notamment à la composition, qui est vraiment ma faiblesse principale. C'est grâce à lui que j'ai amélioré d'ailleurs cette faiblesse. Et c'est vrai que parfois j'avoue même que je redoute tellement son avis dans les moments de rush où j'ai beaucoup de travail à rendre que discretos, j'envoie mon dessin sans lui avoir montré parce que, à cause de la pression, à cause de la charge de travail, je n'ai même pas le courage de passer à travers son filtre. Alors que généralement, après, il me dit « Ah oui, mais si tu me l'avais montré, je t'aurais dit ça, ça, ça et ça ». Mais c'est vrai qu'il est, voilà, c'est vraiment un pilier pour moi, mais c'est un pilier qui fronce les sourcils.
Alexandre ?
Tout pareil.
Mais moi, je ne fronce pas les sourcils.
Comme j'ai des faiblesses et c'est sa force, je redoute aussi son avis par rapport à des personnages, des spécificités, des choses comme ça. Et puis, un facteur aussi, c'est que j'ai l'œil de l'artiste, mais aussi l'œil aussi du passionné d'illustration. Du coup, j'ai une vision technique et j'ai une vision aussi émotionnelle. Donc pour moi, c'est essentiel de l'avoir à côté de moi et je pense que j'aurais pas évolué dans ce métier-là aussi vite s'il n'était pas à mes côtés.
Alors oui, je voulais intervenir sur l'habitude de la collaboration. Moi, c'est curieux parce que j'ai pris goût à la coécriture avec Philippe. J'ai aussi déjà une époque un petit peu coécrit avec d'autres gens, des petites choses qui n'ont pas forcément été publiées, mais où ça a été également un plaisir. Et finalement, on prend l'habitude de travailler avec quelqu'un d'autre. Et par exemple, quand il s'est agi de prendre la direction de l'anthologie des Imaginales, très naturellement, Stéphanie Nico nous avait proposé de prendre la direction de l'antho des Imaginales à la fois à Lionel ou à moi, puisqu'elle cherchait quelqu'un pour un peu reprendre le flambeau. Lionel a dit « Ouh là là, l'antho complète, c'est un peu lourd. » Moi, j'ai un peu dit la même chose. Et je demandais à Stéphanie « Mais t'en as parlé à qui ?» Et Stéphanie dit « J'ai notamment contacté Lionel. » Et puis elle dit à Lionel que « Et puis on s'est appelés tous les deux. » Dis donc, on ne pourrait pas faire ça ensemble, ça pourrait un petit peu alléger le travail. Et ça ne nous a absolument pas fait peur de collaborer. Moi, j'avais l'habitude. Et tout de suite, je me suis glissée dans une espèce d'autre moule, d'autres groupes, d'autres méthodes de travail qui se sont installées pour co-diriger l'Anto avec Lionel. Et on acquiert une certaine souplesse comme ça pour réagir au travail avec d'autres.
Moi aussi, je suis très infidèle. Et j'ai écrit aussi avec d'autres personnes. Notamment, j'ai écrit un livre avec Sylvie Morgenstern et là, je viens d'en finir avec Pierre Borbage. Mais, oui, c'est pas pareil avec Pierre Borbage, mais enfin bon, c'est une coécriture quand même un peu. Et là, je me suis heurté à d'autres trucs, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas des structurants, mais des littératurants. C'est-à-dire, et là, c'est chaud. Parce que, donc, le structurant fait toute sa structure de A jusqu'à Z, et qui est donc. Avec Suzy, j'envoyais tout ça, et après je lui envoyais deux pages d'explication pour son chapitre à elle, en disant il va se passer ça, 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 et elle me répondait ok, no problem. Je recevais son chapitre, mais rien, absolument rien, je lui dis pas, c'est pas un truc, mais rien de ce que je lui avais dit, elle était dans son chapitre. Donc moi, panique, il fallait que je restructure toute l'histoire pour pouvoir faire mon chapitre. Et c'est très, très, une partie du monde, très bien.
Moi je sais que j'ai fait deux autres essais avec des personnes, et ça n'a pas très bien fonctionné, même si c'était bien, de mon point de vue, parce que j'ai pas pris plaisir. Et je crois que c'est ça, c'est trouver la personne avec qui il faut écrire, et à partir de là, à la limite, on peut écrire avec n'importe qui. En plus, déjà, normalement, les auteurs, il y en a très peu, écrire à deux, très peu, c'est toujours quelque chose de métier de solitaire, dans son coin, dans sa grotte, tout ça. Écrire à deux, c'est très rare, comme on regarde bien, il n'est pas fou, là. Il y a des mots, quand il avait aussi la pression gore, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Donc, c'est rien.
C'est Ben Mars, c'est bien.
Donc c'est vraiment, on n'est pas nombreux dans la salle. Et donc il faut vraiment trouver, il faut qu'il y ait une alchimie entre ça, et je sais que maintenant ça sera avec Sylvie, avec d'autres, je tente un peu la même.
Mais en même temps, tu fais un trouble pour Xavier.
Non, c'est totalement différent. Pour Xavi, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que Xavi, c'est la fantaisie catalane. Alors, c'est trois, on va dire, un français, un catalan et un occitan, moi, qui écrivent une histoire. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas, pratiquement pas de scénario, et on écrit chacun notre histoire. Il n'y a pas la chimie. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout corrigé les autres, je n'ai pas vu les autres. Il y en a un qui a écrit la première partie, la deuxième. Moi, j'ai lu les deux, j'ai écrit ma troisième partie. Donc, on a un petit scénario, mais c'est vraiment totalement, là, c'est l'aventure. C'est pas du tout de l'écriture à deux, à trois. C'est l'écriture seule, mais on est trois sur la couverture.
Parce que nous, on a écrit 12 livres à trois, quand même.
Oui, mais la série du Minard, on était trois auteurs, et chacun écrivait, enfin, les deux messieurs commençaient, faisaient chacun quatre chapitres, alors dans un ordre ou dans l'autre. Et moi, je faisais les deux derniers, ça semblerait être non, c'était le pire. Parce qu'il fallait que je corrige les 8 avant d'attaquer les 2. Et c'était de la fantaisie. Par exemple, il y a un moment donné, dans un des romans, j'ai reçu 8 chapitres où il n'y avait absolument pas de magie pendant 8 chapitres. J'ai dit, donc les gars, il va falloir quand même qu'on recadre un peu. Oups. Donc j'ai beaucoup corrigé, mais c'était sympa de travailler aussi.
Ouais, mais comme tu le disais, Alain, c'est vrai que pour trouver quelqu'un qui coécrive avec toi, moi c'est vrai que je suis, comme j'aime bien avoir une structure avant, surtout quand on est deux. Quand on est tout seul, on peut partir et puis dire, bah, j'irai où ça va. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas capables de faire ça. Et il leur faut juste le truc, bah voilà, j'écris comme ça vient, et pour eux, c'est une vraie torture d'essayer de structurer quoi que ce soit. Donc, et là, du coup, travailler avec, c'est compliqué.
Et moi, justement, je suis passé de littéraire à la structure. Au départ, j'écrivais n'importe quoi, mais tu as même un solo. Mais j'écrivais n'importe quoi, c'est vrai. Je le dis franchement. Et là, maintenant, depuis que je travaille avec Sylvie, c'est vrai que tous mes, même un solo, les quelques que je fais, c'est vraiment structuré.
Il nous reste une petite dizaine de minutes parce que j'ai qu'une question à leur poser.
Oui, c'est possible aussi.
Pour nous, ça s'est fait de suite. On a fait le mur, on l'a écrit dans la voiture pour Paris, on l'a réécrit. Ça s'est fait très vite, on l'envoie à Ténèbres, ils nous disent OK.
Oui, c'est vrai qu'en fait, on a trouvé cette façon de faire. On s'est dit, voilà, on est deux, on ne peut pas partir n'importe comment, donc il faut déjà se mettre d'accord pour avoir une trame. Si on écrit chacun son bout, il faut bien que ça se raccorde à un moment, il faut bien qu'on ait réfléchi. Donc, on est parti sur cette méthode-là tout de suite. Et alors, bon, moi, j'avais rien écrit avant, donc j'ai commencé à écrire comme ça, mais moi, j'aime bien être. Déjà même dans mon boulot, dans tout ce que je fais, j'aime bien savoir où je vais. J'aime bien un minimum de préparation, un minimum de structure, un minimum de cadre. Sinon, si les choses sont floues, je ne suis pas dans ma zone de confort. C'est dans mon caractère. Et donc Philippe, lui, effectivement, a changé ses habitudes d'écriture, mais il a trouvé ça très confortable aussi, parce que du coup, on savait où on allait. Et on avait l'impression de ne pas trop se planter. Donc on a trouvé ça tout de suite, et ça a fonctionné tout de suite.
On avait écrit chacun des romans avant, on travaillait ensemble, mais c'est vrai que c'est moi qui ai commencé. Mon premier roman, quand je l'ai écrit, il était fini. Alain a vu le travail que j'avais fait, et j'avais fait un synopsis. Enfin, moi, je fais des synopsis qui sont tellement détaillés qu'ils ont quatre colonnes. Hein. Une colonne décor, une colonne personnage, une colonne ton du chapitre, etc. Donc, oui, je fais des arbres généalogiques, je fais des fiches d'identité des personnages en amont, enfin, etc. Moi, je construis vraiment des tas de choses avant d'écrire. D'ailleurs, je ne commence, en ce qui me concerne, mais on l'a fait plusieurs fois ensemble, je ne commence un roman que quand j'ai déjà la dernière phrase en tête. Donc c'est une cible, je sais où je vais. Bon, la flèche va faire des petits virages, mais je sais où je vais. Et Alain a vu comment j'avais travaillé ce qui... Et puis, il est feignant, disons les choses, il se croit. Oui, il est payant. Donc il s'est rendu compte que c'était vachement bien comme méthode, puisque ça permettait de ne pas perdre de temps, de ne pas aller se pourvoyer dans quelque chose. Donc quand il a écrit son propre roman, il a appliqué finalement spontanément la même méthode, parce qu'il s'est dit que finalement c'était plus facile d'écrire trois pages de synopsis pour faire un roman après, plutôt que de se lancer à faire un demi-roman, de se rendre compte qu'on s'était pourvoyé. Et donc le ensemble, on avait déjà
la même
méthode.
En fait, toujours pour l'écriture du roman, s'il y a une chose avec laquelle il a fallu apprendre à composer,
en l'occurrence, c'est moi qui ai appris à composer avec, c'est qu'au départ, quand on a commencé, on fonctionne un peu pour le livre comme pour l'illustration, c'est-à-dire que lui, c'est les faits, l'histoire avec un grand H. Moi, je suis plus la construction des personnages, de leur élaboration, leur psychologie. Et par le fait, quand on a commencé l'histoire, qu'il s'est agi de faire ce premier tome où on expose les personnages et tout ça, j'étais très enfermée dans ce processus et pas très partageuse. Ce qui fait que je laissais un peu trop sur le fait accompli. Voilà, le personnage là, lambda, il est fait, il est créé, il n'avait pas eu trop droit de citer dessus. Et j'avais déjà certaines perspectives pour le personnage dont il ne savait rien. Et j'ai dû apprendre quand même, voilà, au fil des chapitres, à me décoincer un petit peu, arriver à me sortir un petit peu de cette bulle qui m'avait été nécessaire pour commencer, et commencer à lui dire, voilà, bon, j'avais pensé à lui, au fait, pour faire ci et ça, et il a pu, voilà, il y a quand même 6 tomes, donc il y a le temps de voir venir et de faire évoluer les choses, et apporter une certaine contribution maintenant à part égale.
La supériorité que vous avez par rapport à nous, là, c'est que vous pouvez dessiner vos héros avant de commencer à écrire.
Oui.
Et ça, je vous envie
et
pour
en
ça.
Fait, c'est
bon,
vrai que...
Moi, je suis obligé de demander à Manchu, c'est pas mal non plus quand même.
Ça va, c'est trop fort.
Mais Manchu m'envoie des esquisses et tout, et je scotche ça au-dessus de mon ordinateur pour avoir déjà ça.
Il y a beaucoup d'écrivains qu'on rencontre et effectivement ils nous disent vous avez de la chance de savoir dessiner parce que vous mettez en image ce qu'on a dans la tête. Et là, ça, c'est pour ça qu'on l'exploite aussi par plaisir, parce que on sait que ça c'est un vrai avantage et un vrai plus pour nous de pouvoir mettre en image notre univers.
J'ai une méthode particulière, j'arrache les pages dans les magazines quand je reconnais un de mes personnages. J'ai beaucoup de mal à imaginer les visages de mes personnages, mais bon, je sais une chose, ils sont tous beaux. Ce que je dis souvent à mes jeunes lecteurs, il y a des gens qui sont moches dans la vraie vie, donc dans mes romans, ils sont beaux.
Et... C'est pour ça que dans son village, les dentistes, les coiffeurs, tout ça planque les revues quand elle arrive.
Mais ça m'arrive de reconnaître, je dis tiens, oh, ça c'est génial, c'est le visage de tel personnage. Et je fais comme Alain, je scotche, je fais des albums, ou des albums photos, et puis j'ai mes personnages comme ça identifiés. C'est ce que j'ai fait, par exemple, je l'ai mis sur la page Facebook de mon dernier roman, j'ai mis les albums de toutes les photos qui m'avaient servi pour construire le décor du roman et les personnages, et la collaboration avec l'illustrateur, enfin c'est pas un illustrateur justement, c'est une photomontage aux éditions Cyrus, est partie de ça, parce que le directeur artistique m'a dit « Mais vous aviez du visuel, on part sur quoi ?» Je lui ai dit « Ah, mais je vais vous envoyer toutes les photos que j'ai glanées sur Internet pour construire le roman. » Et à partir de ça, il a trouvé un type de visage féminin qui lui convenait. On est parti sur ce
Moi, c'est plus simple. Notre héros est un détective privé qui est toujours au bar. Donc, il goûte du whisky. Donc, moi, je goûte du whisky pour voir le truc que ça fait. C'est facile.
Non, mais en parlant de personnages, c'est vrai qu'il y a un détail quand on est deux et qu'on écrit les chapitres un peu dans son coin, il faut quand même penser à tous les détails. Et en général, ça c'est moi qui fais le catalogage, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage apparaît, qu'il a été décrit soit par Philippe, soit par moi, la première fois où on le voit, il faut faire une petite bible dans un coin. Parce qu'il ne faut pas que moi, je lui mette des yeux bleus et que 4 chapitres plus loin, il lui mette des yeux marrons. Il y a une cohérence à respecter. Et donc forcément, ça oblige à, dans une sorte de bible, de noter les lieux, les personnages, pour que l'autre puisse bien respecter et qu'on ne se mélange pas les crayons. Surtout en plus quand on est dans plusieurs volumes et qu'on les reprend, qui sont récurrents sur plusieurs histoires.
On arrive à la fin. On va les remercier. On va vous remercier d'avoir été là. Merci à tous. Et puis vous allez pouvoir les retrouver en dédicace très vite. Merci beaucoup.